Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 79. Nous sommes toujours le 28 juillet 2025, je suis Horacio González et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin!
Bonjour, je t'ai caché derrière le jeu de WhatsApp.
C'est ça, et caché derrière le logo Clever Cloud, il y a Pierre Sem. Bonjour Pierre!
Bonjour!
Et là, sur ce fond blanc mystérieux, on dirait presque le fond de Fort Boyard, la preuve de Blanche, il doit se cacher. Thomas Mathieu, Thomas, tu es là?
Hello, c'est marrant, je regardais Fort Boyard hier avec ma fille, tu vois, et il y avait Blanche, ils ont choisi Blanche encore.
Bah voilà, c'est ça qui m'a rappelé, il y a les deux.
Toujours voilà. l'adresse plutôt que la force.
Voilà. Merci d'être là pour ce nouvel épisode. On va faire un tour de table très rapide parce que vous pouvez vous référer à l'épisode précédent. Thomas, qui tu es?
Alors, donc moi je suis Thomas, je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle GuestSuite. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans le pilotage de leurs avis sur Internet, de leur réputation sur Internet. Donc on est un éditeur SaaS pour ça. Et puis à côté, je suis récemment président de la cantine French Tech Nantes, avec donc pour mission de fédérer, de faire en sorte de faire rayonner notre bel écosystème à Nantes.
Nickel, merci. Et Pierre, tu nous rappelles qui tu es ?
Ouais, donc je m'appelle Pierre, je travaille à Clever Cloud sur tout ce qui est système distribué et base de données.
Et Quentin, tu nous fais ton introduction ?
Bah du coup, chez Clever Cloud, je suis CEO. Et donc, ça veut dire que je gère tous les problèmes que les autres n'ont pas traités avant moi. Donc, voilà.
Ah, j'aime bien la définition.
J'aime beaucoup la définition.
C'est la merde. Vous connaissez pas l'acronyme de CEO, c'est Chief en merde officer. C'est-à-dire que globalement, quand t'as quelque chose qui est suffisamment pourri, c'est pour toi.
Je valide l'acronyme.
Validé. Bon, bah, donc dans cet épisode, on a plein de choses à raconter et on va démarrer, bon, d'abord avec une petite news à nous. On a sorti récemment un petit long blog post sur quoi de nouveau sur Clever Cloud dans ce deuxième trimestre de 2025. Et là, il y a des news à l'appel parce que, faut dire, on était particulièrement productif et qui va commenter un petit peu certaines des choses. Par exemple, Pierre, je te laisse démarrer.
Ouais, je vais prendre le blog post dans l'ordre. On a sorti deux nouvelles zones, notamment une à Londres. Ça, c'est plutôt chouette. On a beaucoup amélioré la gestion des images. Donc les images, en fait, c'est ce qui contiennent les applications et les bases de données. Donc en fait, c'est littéralement l'ISO qu'on démarre, tu vois. Donc on a littéralement automatisé et on a tout un nouveau processus qui nous permet d'être beaucoup plus souple. Et parce qu'en fait, on l'a entièrement automatisé. Donc en fait, on a une factory de distribution Linux full automatisée en distrib source et sur laquelle ce qui nous permet de rajouter beaucoup plus de petites options, de faire des tests d'intégration, etc. Donc ça, c'est un gros sujet chez nous qui a pris pas mal de temps. Moi, quand je suis arrivé il y a 4 ans chez Clever, on commençait à en discuter. Et du coup, c'est vraiment chouette de voir ce sujet-là arriver. Et puis, qui veut parler des runtime?
Sur la zone de Londres.
Moi, je peux essayer de faire un truc sur ton gain. Tu nous défonces un peu les oreilles. Donc les runtime, on a fait un pipeline maintenant pour générer les images qui est beaucoup plus propre. On a refait le pipeline, donc on a plein de nouveautés dans les runtime qui sont beaucoup plus propres, nouvelle gestion des versions de Node, du varnish, l'utilisation de CoreBuildX. Le Gitcon est beaucoup plus rapide aussi. On a ajouté bien sûr Java 24. On a ajouté les nouveaux supports de natifs de Boon en JavaScript, UV pour faire vos dépendances en Python. Enfin, il y a plein de choses qui ont été ajoutées. Moi, la fonctionnalité qui m'excite le plus, c'est un truc qu'on appelle Request Flow, qui permet de dire je demande à ce que ma requête, quand elle arrive, elle passe d'abord par Varnish, puis par Redirection.io, un autre reverse proxy qui va faire la sécurité, puis ensuite arrive à l'application. Et donc ça, c'est un truc qu'on a mis en prod, Request Flow, qui est assez cool. Voilà, vous pouvez tester ça et c'est assez nice. Et puis après, c'est des nouveaux runtime qui ont été mis en prod, FrankenPHP, pour avoir du PHP beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, autoporté, qui est assez cool. Le Linux statique, dont on se sert pour plein de bricolage, et vous pouvez aller voir, il est très pratique pour bricoler des trucs.
Le Linux. Pour déployer des choses qu'on ne sait pas déployer nativement, comme par exemple des Swift, des Dart, des.
Ouais, sachant que Swift, on va fournir un support natif, c'est en train de se cook.
Pour l'instant, on peut
Swift, c'était un, c'était un, ça a longtemps été un enfer, Swift à builder. Oui. Et puis du V, parce qu'on est toujours à la pointe des nouveaux langages chez Clever, donc on supporte également V, ce qui est assez cool. Voilà, on a vraiment des tas de choses. On a le package manager mise. Qui a été buildé dans Linux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été très cool là-dessus et qui ont été fournies. Peut-être rapidement. Toi, est-ce que dans ces nouveautés, il y a des choses qui ont impacté directement votre migration, Thomas, ou pas du tout ?
Alors, je suis pas dans ce niveau-là de détails, pour être tout à fait honnête. Je me demandais sur la partie requête là dont tu parlais. J'aimerais bien comprendre c'est quoi les applications concrètes que tu as derrière ça, parce que sur l'orchestration là des requêtes quand elles viennent taper chez toi. Si tu peux juste me dire en deux mots c'est quoi une application.
C'est en fait si tu veux mettre de la protection, donc soit de la transformation de requête, soit du gateway de protection, soit des choses comme ça avant ta requête, être sûr que ça ait lieu. Pendant longtemps on a essayé de le faire sur le reverse proxy, là on le met directement dans l'image pour assurer qu'en fait les runtime garantissent le fait qu'on puisse sécuriser, tu vois, une application, pas par l'application mais par un truc extérieur par exemple, tu vois.
Ok.
Donc avec des reverse proxy applicatifs, ce genre de choses, notamment ça permet de fonctionner avec Autoroshi qu'on fait avec Cloud Apim et d'avoir du reverse proxying applicatif là-dessus, donc soit en modification de requête, soit en sécurisation, soit en re-limiting, etc. Faire ce genre de choses.
Ok. Très cool.
Non, ouais, franchement, c'est assez cool ça. Et donc voilà, on a également mis en prod ce trimestre, on a aussi quand même mis en prod les long awaited network group, hein, mine de rien. Donc maintenant, ça y est, ils sont production ready, ils sont utilisés tous les jours. Enfin, vous pouvez faire du network group dans Clever. Donc ça, c'est quand même très très cool. On pourra peut-être en parler de façon spécifique à un moment. Il faudrait qu'on fasse des démos des network groups sur notre chaîne YouTube.
Voilà. Donc, il y a plein d'autres petites news. Je vous laisse explorer l'article, ça vaut la peine. Et sinon, revenir un instant sur la sonde de Londres. La sonde de Londres, on se déploie sur les infrastructures de Ionos comme partenaire. Donc, ça ajoute à la longue liste de partenaires dans lesquels on se déploie OVH Cloud, Scaleway, Cloud Temple. Ah, on ajoute maintenant Ionos. En continuant sur les news, tiens, Thomas, tu nous avais parlé d'une news sur un robot humanoïde à un prix assez intéressant que tu avais trouvé. Tu peux nous raconter un petit peu plus?
Oui, bah en fait j'ai vu passer ça. En fait, c'est ce qui est assez intéressant, c'est de voir la vitesse à laquelle surtout le prix sur ce genre de device commence à chuter. Là, j'ai vu passer sur Product Hunt un robot à moins de $6,000 humanoïde avec comment dire une interface comme quasiment tous aujourd'hui avec une interface LLM. Et pour la communication et c'est assez on parlait dans l'autre épisode de l'évolution et la révolution technologique autour des métiers de la prestation de services. Il y a aussi une révolution technologique qui arrive au travers des humanoïdes et dans à l'assistance à la fois dans l'industrie mais aussi aux personnes et ce genre de produit là va complètement dans cette direction là pour un certain nombre de tâches. Donc je trouvais ça intéressant à partager. Ouais.
Les prix je les trouve dingues. Si c'est Si ça tient les promesses, il y a une petite vidéo sur la page de Product Hunt. C'est un robot humanoïde assez ressemblable au modèle que Tesla a pu présenter, au moins dans l'aspect.
Dans l'Optimus, ouais.
C'est...
Ils font tous du breakdance.
Et ils font tous du breakdance comme si c'était l'usage qu'on attendait, tu sais. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que le truc, il nettoie notre maison, il repasse nos chemises, et ils font jamais aucune démo d'un truc qui fait ça. T'sais. Parce que quand j'ai vu la vidéo, je me suis fait la même remarque. Je me suis dit, mais en fait, c'est cool, là, le truc, il est en train de faire du kung-fu, mais en vrai, je veux que le truc fasse d'autres trucs pour que moi, je puisse aller faire de la boxe avec mes copains, tu vois. Mais j'ai pas.
J'ai envie de voir la vidéo où il cherche sa machine à laver et il sort, il met ses chaînes là, s'il fait ça, il y a
la juste. Moi je suis vendu, en fait, je mets directement la CB, en fait, c'est instant buy, tu vois, s'il fait ça. Le truc qui est en train de faire du breakdance, je sais pas, tu vois, je vois, mais je suis pas sûr. Alors que, effectivement, si je le vois dans l'application concrète d'être en train de faire des tâches que j'ai pas envie de faire pour que moi je puisse faire des tâches que j'ai envie de faire, là par contre, je dis pas.
Et il y a déjà des gens qui ont joué avec ce truc
Celui-là, non. Par contre,
j'ai l'impression que c'est sorti sur Product Hunt entre les deux épisodes, tu vois. Donc, globalement.
Ouais.
Contre, on avait parlé il y a quelques semaines des projets, le robot de Hugging Face, les bras robotiques. Et sur ça, il y a des gens qui ont joué pour des applications concrètes. J'ai vu des projets sur la. Pour des personnes à mobilité réduite, ce robot-là dans la cuisine qui fait l'enchaînement de mettre la machine à café en route, s'occuper d'actionner des choses. Et il y a déjà des applications qui ne sont pas simplement amusantes, mais qui vont
ajouter une
fonctionnalité concrète. Ouais, pour un robot à une centaine d'euros, comme les bras de les robots, c'est vraiment bluffant les applications qui commencent à apparaître déjà.
Il coûte combien le robot? Enfin, le bras.
Le bras, c'est à peine une centaine d'euros. Vous redonnerez les liens si vous voulez, mais c'est le projet Le Robot, parce que dire en français, c'est plus chic apparemment, et parce que aussi, c'est fait par un Français qui a quitté Tesla, qui est revenu en Europe et qui a proposé à Hugging Face le projet. Donc, le projet Le Robot, on a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Regardez les interviews qu'il y a derrière. Et c'est un projet que ça vaut la peine. Et pour une centaine d'euros, tu as un bras robotisé, complet, open source, avec tout le nécessaire pour les. Qui fait de l'apprentissage par renforcement façon LLM, et sur lequel il y a déjà des tonnes d'applications concrètes qui ont été faites. Ça vaut la peine comme projet à regarder, c'est vraiment super intéressant.
Mais ce qui est en train de se produire est lié à l'IA, en fait, et la rapidité avec laquelle l'électricité aussi est en train de prendre le pas. Et franchement, c'est incroyable ce qui est en train de se produire. Et les mecs du Nitri qui font là le R1, en fait, ont fait un robot dog qui a été livré et dont les gens sont très satisfaits. Enfin, c'est une boîte qui a déjà shippé des trucs. C'est pas un scam, c'est une boîte qui ship des trucs. Donc celui-là, le R1, il a pas été testé, mais c'est très très impressionnant, quoi.
Ouais. Ce qui est bluffant, en fait, c'est surtout la capacité, là, maintenant, à pouvoir assez rapidement mettre sur le marché. En fait, on voit que, je pense que là, ce sera probablement pas celui-là encore, mais qu'on est à quelques mois ou à quelques années, en fait, de la généralisation de ce genre de device que tu iras acheter comme tu achètes ton nouvel iPhone, tu vois. Et là, c'est quand même, c'est pareil, c'est un bouleversement qui est colossal, en fait, sur ce sujet-là, quoi. En termes d'usage en public, quoi.
Si le robot vide le lave-vaisselle, on est d'accord, quoi.
Bah ouais.
Bon, un autre projet à surveiller, il commence à faire beaucoup, carrément.
Enfin, qu'il fasse un protocole comme le MCP entre les robots et les appareils ménagers, tu vois. Espèce de. Le système pour qu'ils puissent communiquer entre eux.
Ça serait bien. Mais voilà, qu'ils plient les t-shirts, ça, c'est la clear application.
C'est ça.
Mais parlant de MCP, il y a un projet que j'ai trouvé super intéressant, pas qu'il soit innovant, mais qu'il est vraiment pratique. C'est Context7. C'est un serveur MCP qu'ils ont pris le boulot de récupérer les docs de centaines de projets open source, surtout dans la galaxie JavaScript, et les mettre de façon unifiée à un format facilement compréhensible par des LLM et sur un serveur MCP unique. Donc, comme ça, quand on travaille dans un éditeur comme Winsoft ou Cursor, on va limiter énormément les hallucinations. Quand on va les dire, tiens, fais-moi tout ça, mais pour la bibliothèque, va chercher la documentation sur Context7. Et là, on va trouver une description détaillée de la documentation de ce projet-là, mais adaptée à ce que l'LLM attend. Ça va être extrêmement rapide, parce qu'on a déployé les serveurs chez soi, c'est très rapide, et surtout, ça va éviter énormément des hallucinations. Donc, nous, c'était Hubert, un collègue chez Clever, qui nous l'a fait tester, et bah, depuis, c'est systématiquement installé, et j'ajoute systématiquement cher sur Context7 quand je suis en train de coder quelque chose, parce que la qualité de réponse augmente tout de suite. Donc là, c'est un exemple de projet qui n'est pas techniquement novateur, mais qui est extrêmement utile.
J'avoue que moi, quand je code avec de l'IA, comme je code en Rust, tu peux générer la doc en local de tout ton arbre de dépendance, et donc en fait, t'as une doc locale. Et du coup, j'avoue que le coup de lui dire, tiens, si à un moment tu es perdu, tu peux aller crawl en local la doc en HTML. Et donc en fait, c'est vrai que c'est un de mes premiers réflexes, c'est de faire un cargo doc. Qui est la ligne de commande Rust, avant de faire du build, juste pour pouvoir lui dire, tiens, vas-y, va chercher.
Là, c'est un avantage de Rust, mais j'ai fait beaucoup plus de JavaScript, donc dans mon cas, ça m'aide énormément.
Ça a du sens, ouais, du coup, ouais. Ça a énormément de sens d'avoir un endroit centralisé pour avoir la doc.
Ouais. Ouais, c'est super cool, ça. Je vais l'ajouter aussi pour mes prochains, parce que en plus, je vois qu'il prend bien en compte directement les docs de N8N et tout ça, donc je vais le tester. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vous connaissez peut-être, vous, un outil, j'ai le même problématique quand je bosse avec des tables SQL ou autre, où tu vois, en fait, à chaque fois, je passe mon temps à lui réexpliquer, voilà, les relations entre mes tables, etc., pour rapidement, juste avoir une fois un export, propre de c'est quoi les relations entre mes tables et pouvoir le filer en contexte directement à mon LLM. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des trucs comme ça qui sont passés.
Quand j'ai fait via les schémas de table. Donc la première chose, j'ai fait explorer le schéma de table et dire, ok, maintenant tu me redonnes ce schéma-là comme un contexte que je puisse te donner. Et donc la première requête sur un projet, c'est lis le schéma de la table, montre-moi que tu le comprends et maintenant tu utilises ça comme contexte pour tous les
requêtes. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais ça, du coup, tu le fais directement dans un Winsurf ou un truc comme ça, quoi.
Oui.
Ouais, moi aussi, je le fais à la main, ouais.
Ouais, il y a un MCP qui existe, fait par les mecs qui ont fait Alchemy, qui fait du... Enfin, il y a un MCP qui existe qui permet de taper un peu toutes les bases de données du truc. Je ne l'ai pas testé, mais comme c'est les gens qui font du Alchemy, ça a du sens. Parce que du coup, c'est compatible Oracle, MS, SQL, Maria, Postgre, etc. Et donc t'as un MCP qui va être capable, lui, de faire son analyse et de te sortir le truc.
Ok, trop cool.
Ça s'appelle Alchemy, voilà. Je vais les mettre.
Ça s'appelle MCP Alchemy. Je l'ai testé qu'une seule fois dans un tout petit truc, mais voilà.
Parfait, je crois que je l'ai trouvé en CP Alchemy. Donc
c'est bon, je l'ai mis déjà dans le.
Ah, parfait, c'est celui-là que j'avais trouvé, top.
Mais je pense qu'il y a plusieurs MCP sur le sujet. Après, reste un sujet qui est chiant pour l'instant, c'est comment t'orchestrer la totalité des différents MCP dans ta vie, quoi. Et enfin, il y a du boulot, quoi.
Et il y a problème aussi de sécurité, que l'MCP. Mais en général, je pense qu'on n'est qu'au démarrage. Et comme je vois comment ça avance, je reste optimiste. Le fait qu'un projet comme Context7, par exemple, ça élimine tellement de petites MCP que j'avais à côté pour chercher des choses, mais centralise. Donc, je pense que ça va continuer à bouger très rapidement et ça va un peu. On va se consolider avec des listes de MCP, de dev.
Quand est-ce qu'on aura un MCP Clever pour directement dire, tiens, on va voir comment c'est foutu dans ma base de données de telle app et que ce soit directement connecté. Enfin, request user, là, en live.
Pour être honnête, En interne, on a un NCP qui peut faire ça. On n'a pas encore, mais...
On a un peu des incertitudes sur ce que ça va générer en termes de sécurité.
Ah oui, tu m'étonnes. No shit.
Après, bah, voilà, c'est l'un des avantages d'un NCP quand il est fait taillé pour une API, c'est que tu peux choisir ce que tu exposes exactement. Parce que exposer un NCP qui puisse te donner des informations, c'est cool. Exposer un NCP qui puisse agir techniquement, on peut exposer un NCP qui peut créer des apps, effacer des apps, créer des bases de données, dropper tes bases de données.
Moi, ouais. j'ai toujours dit pas de data, pas de problème. Hein. Donc, le drop table, je le sens arriver gros comme une maison. Tu vois, on parlait de l'exemple de Matrix, tu sais, avec l'index qui était corrompu. Le MCP, il te le répare. Enfin, je sais pas comment il te le répare. Tu vois.
Ouais, mais alors, tu vois, par contre, il y a un truc au-delà de la vanne. Tu vois bien que sur ce genre d'usage, il y a aussi beaucoup ce principe de human in the loop. Donc en fait, espèce de kill switch qui est built-in, qui dit ok, en fait, si c'est un drop table, si c'est ceci, si c'est cela, il y a une validation humaine systématiquement, tu vois. Et mais au moins ça te gère la majorité des cas, genre des cas simples. Je veux juste faire un read et connaître ma structure de table, par exemple. Ça, moi,
si vous avez vu passer les tweets qui expliquaient comment Replit, que c'est un outil de IA pour aider à générer des apps, a droppé une base de données de production parce qu'il a, entre tous les guillemets que vous voudrez, paniqué. Je vous laisse le lien parce que effectivement, ça fait un peu fraude. J'ai paniqué, chef. Donc, je pense qu'on n'est pas encore là, mais dans 6 mois, on va savoir. Après tout, il y a 9 mois, le NCP n'existe pas. C'est là où c'est difficile de se rendre compte. On parle d'une techno qui était sortie en novembre. Et maintenant, il est complètement généralisé. Quelque part, le cycle d'adoption, il est un des plus rapides que j'ai jamais vu, quoi. Bon, pour ne pas faire un autre épisode full IA, je vous propose qu'on parle d'autres news. Et on a vu passer une news comme quoi Proton décidait de sortir un petit peu de la Suisse. Qui a un peu plus de détails sur ces news-là qui va nous raconter?
Donc, Proton, c'est une fondation. C'est pas une entreprise, c'est une fondation qui a été créée globalement au CERN en disant l'internet doit être libre et la privacy doit exister. Donc le CERN qui est quand même l'endroit où est né le web, hein, donc faut pas oublier ça. Et le fondateur et directeur, en fait, président, enfin, ou CEO de Proton, je sais pas, mais en fait a dit à la Suisse, vous êtes en train de devenir un état totalitaire. Et donc le nouvel assistant AI de Proton, Lumo, en fait il tourne en Norvège et en Allemagne en disant il faut qu'on mette des œufs dans différents paniers parce que la fédération suisse prend un chemin qui nous permettra pas de garantir la sécurité des informations des gens. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'encore une fois la politique était au milieu en fait de la technologie et que même une fondation clairement établie comme Proton aujourd'hui se retrouve à devoir naviguer en essayant de pas mettre les choses dans le même panier et de comprendre comment ça va se passer au final et de voir comment ça se passait, mais pas simple.
Déjà que Proton décide de sortir de Suisse, c'est par rapport à l'historique de la boîte,
c'est un gros move. Hein.
Mais quoi?
Moi, je trouve ça assez anxiogène.
Oui, c'est ça. Moi aussi.
Et j'imagine que l'engueulade, elle a été sévère pour que Proton fasse ça. Donc voilà, des news à suivre sur qu'est-ce que nos amis suisses sont en train de faire de leur loi qui était plutôt réputée. Voilà quoi, les mecs avaient un peu la stratégie du secret bancaire appliquée à l'IT. Qu'est-ce qu'on fait quoi?
Et c'est, on en a parlé dans un épisode il y a un mois, mais effectivement, la loi suisse sur ce côté-là, il semble aller sur le fait que la privacy, la vie privée dans le numérique, ce n'est pas du tout un truc aussi sacré qu'on imaginait.
Anxiogène. Anxiogène.
Carrément.
Si on ne peut plus compter sur la Suisse pour garder les secrets cradingues des gens, où va le monde? Où va le monde?
Quelque part, c'est ça. Et pour continuer avec la politique, il y a aussi l'administration Trump qui se met à critiquer la justice européenne par rapport à l'enquête ouverte contre les réseaux sociaux X, Twitter, et le fait de nouveau, ça nous montre que de point de vue américain, bah,
ouais, surtout que le sujet est ultra sensible parce que l'enquête elle est ouverte sur est-ce que X a bricolé son algorithme pour favoriser des fake news ou certains points de vue dans un but politique. Et notamment, ça s'adresse à tout le moment où il y a eu les élections en Allemagne et où Elon Musk était quand même à fond derrière l'AFD. Voilà, et donc c'est une enquête qui est ouverte par différents États puis l'administration européenne pour dire à quel moment on peut encore faire confiance à X et qui demande à X les détails de l'algorithme, les détails des impressions, les statistiques, enfin, de prouver qu'ils n'ont pas tenté d'influencer. Et donc, dans une grande classe, Elon Musk a répondu « Allez vous faire foutre, on vous filera rien. Voilà. »
Je crois qu'il a dit cordialement. Hein. Il a dit cordialement, enfin. Non,
il ne dit pas cordialement Elon Musk. Elon Musk, il ne dit jamais cordialement maintenant. Ça dépend d'où il en est dans la descente de Keta, mais en vrai, en général, il ne dit pas cordialement Elon. Et donc la situation est quand même assez tendue, en fait, je dirais, entre les différentes administrations. Et là, clairement, l'administration Trump soutient ce truc-là. Donc le soft power américain, qui aujourd'hui est un soft power réactionnaire, bah, clairement en droite ligne, et c'est une politique d'État, quoi. Et c'est assez intéressant de le voir, et voilà. Donc je rappelle, ce sont toujours nos amis, et il faut toujours faire des deals avec eux, et les recevoir, et voilà, hein, je rappelle qu'on en est là.
Ça c'est clair, et c'est surtout cette idée-là de respect des systèmes judiciaires d'un autre endroit, respect, non, c'est Gretman. Tacle à la gorge.
C'est quand même très étrange d'attaquer effectivement le système judiciaire d'un autre pays. Enfin, c'est une tradition diplomatique étonnante. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'on a des choses bizarres qui se produisent. Hein.
En tout cas, ça, voilà, c'est comme commencer à interdire d'accès au cloud à des procureurs de la Cour pénale internationale parce que tu n'aimes pas ces avis. C'est cette idée-là de la seule justice qui compte, bon, même pas la seule avis qui compte, c'est l'avis américain. On va passer à un autre sujet et on va revenir un peu sur un côté plus tech parce que...
Avant ça, je vais juste vous saluer, du coup, comme je l'avais dit, je peux vous dire.
Oui, merci. Thomas,
merci beaucoup d'être venu chez nous, Thomas. C'était très cool que tu sois là.
C'était très très cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces échanges sur le premier et le deuxième épisode, du coup, en toute petite partie, mais avec plaisir pour écouter la suite de toute façon.
Et on voilà. Fera appel à toi pour d'autres épisodes, ça c'est clair. À très bientôt.
Ça marche, salut.
Et donc, il y avait un article de blog assez intéressant qui dévoile comment Amazon a fait le nouveau control plane Kubernetes ultra escalable permettant d'avoir jusqu'à 5000 nœuds par cluster EKS. Et là, bah, on a trouvé quelques informations assez curieuses qui certifient quelque chose qu'on dit depuis longtemps et que certaines personnes disent « Mais non, mais c'est pas comme ça !» Le fait que les hyperscalaires n'utilisent pas etcd parce que etcd n'est pas fait pour supporter Kubernetes à l'escale qu'un Cloud Provider avec Swann. Pierre, tu veux nous raconter un peu plus?
Ouais. Du coup, c'est un blog post qui a été sorti par AWS. Donc, c'est le genre de blog post, c'est la course aux nœuds. C'est-à-dire, c'est combien de nœuds on peut mettre dans un cluster Kubernetes, comme si c'était
la métrique ultime.
La métrique ultime, et donc y avait Google, ils avaient fait 65 000 nœuds en novembre 2024.
65 000.
Et maintenant, on passe du coup à 100 000. Alors, il y a plein de trucs qu'on peut retenir dans l'article, mais en fait, ils expliquent un peu tout le processus de toutes les améliorations qu'ils ont dû faire pour ça. Et le premier truc, le premier élément qui est le goulet d'étranglement de Kubernetes, c'est etcd. Donc, pour ceux qui connaissent pas etcd, c'est une base de données distribuée, c'est au format clé valeur. Ça a été développé par CoreOS il y a très 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 longtemps. L'idée c'était de faire le slash etc distribué, donc de pouvoir poser toutes les configs des fichiers, de toutes les configs de software là-dedans.
Les slash etc distribué, c'est pour ça qu'il s'appelle etcd, c'est
oui,
ça, non?
Ouais, c'était ça l'origine, ouais, de ce truc-là, et c'est devenu la base de données de Cube. Parce qu'il n'y avait pas d'équivalent CNCF de ce que Google utilisait, je pense. Et du coup, on s'est retrouvé avec cette base de données-là qui est écrite en Go, qui a une implémentation Raft. Donc, c'est un algorithme de consensus. Donc, globalement, Raft, ça vous permet de dire, quand vous écrivez un endroit et que vous lisez un autre endroit, vous êtes sûr de lire à peu près la même chose. C'est ce qu'on appelle du consensus, et il faut savoir que le consensus a un coût, c'est-à-dire qu'il y a un coût de synchronisation qui est très fort, et donc quand vous commencez à utiliser énormément de stocker énormément de choses dans des bases de données de type consensus, en fait vous arrivez assez rapidement à des limitations de perf. Et en fait, quand on discutait avec les gens qui opèrent les clusters Kube dans des fournisseurs de cloud, il y avait c'était très connu de tout le monde dans le monde des fournisseurs de cloud que non, on n'utilise pas etcd parce que c'est pas quelque chose qui est scalable et qui marche à l'échelle, et quand on a beaucoup de clients, on n'a pas envie d'avoir des etcd vanilla, parce qu'il y a une amplification d'écriture, de lecture, d'emmerdes opérationnelles, et en fait du coup ce modèle-là ne marche pas. Et donc en fait, ce que font la plupart des fournisseurs de cloud, c'est qu'ils remplacent etcd. Donc en fait etcd, c'est du gRPC, donc en fait c'est très facile de changer, de faire semblant d'être un etcd, de faire un etcd shim, je sais jamais comment on dit, c'est shim ou shim?
Chim, pour moi.
Chim, je crois. Ouais. Faire un etcd chim, donc faire un truc qui fait semblant de parler etcd. Les gens qui ont commencé à en faire un, c'est les plus connus, c'est les gens qui ont développé Rancher, qui ont fait Kine, K-I-N-E.
Ouais.
Donc Kine is not etcd, c'est l'acronyme. Et il y avait des gens qui déployaient en fait ce shim là pour remplacer etcd, et qui backaient ça avec une DB PostgreSQL managée d'AWS, et du coup qui avait des bien meilleures perfs que un etcd vanilla. Et du coup le truc, c'est que ce secret là tout le monde le savait, mais personne le disait. Et en fait
tout le monde le savait quand nous on a annoncé qu'on a fait un nouveau Kim pour etcd au mois de juin. Donc t'as les Kubernetes fanboys qui, comme d'habitude, vu qu'ils gèrent deux clusters Kubernetes dans leur coin, nous ont dit « Ah mais ça marche très bien !» T'es là genre « Non, ça marche pas, 500 clusters, on voit pas. » « Mais si, tout le monde utilise !» Non, absolument personne n'utilise. « Il y a pas de preuves sur Internet !» Gros, j'y peux rien si t'as zéro contact chez les GAFAM. Nous, je t'assure qu'on t'assure que c'est non. En fait, on connaît les gens, donc non. Donc c'est toujours très drôle de voir des gens qui en fait n'y connaissent que dalle t'expliquer comment tu gères des centaines de milliers de clusters. Mais bref, tout va bien, tu vois.
Mais du coup, ouais, on commence enfin à avoir les blog posts C'est marrant parce que du coup, tous les blog posts sont formulés d'une manière à ce que c'est de l'innovation, tu vois, de venir scale le truc. Donc, côté AWS, ils s'appuient sur des technos maisons et donc en fait, ils font semblant d'être un ETCD. Donc, ils s'appuient sur le système de journal. Ils ont carrément viré le consensus, eux, ils se sont pas embêtés. Donc, en fait, côté AWS, ils ont viré le consensus. Ils utilisent un système de journal maison interne à AWS et ils ont shardé. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont réparti l'espace de clés sur différentes machines. Ce qui permet de monter à beaucoup plus de volume. Et côté Google, donc si on prend... Tiens, je vais mettre le blog post de Google, comme ça on l'aura aussi. Hop, je l'ai mis dans les notes. Et ben en fait, eux, ils utilisent directement Spanner, ce qui est logique pour eux. Hein. Soyons honnêtes, à un moment, tu t'es emmerdé à créer une DB qui a besoin d'horloge atomique pour venir synchroniser les transactions. C'est entièrement scalable, bah, t'as envie d'utiliser du spanner pour ton control plane, pour stocker les données de ton control plane de cube. Donc c'est logique. Et puis bah, nous, on a fait la même chose, du coup, c'était même un des premiers prérequis hein, de notre produit cube, hein, c'était d'être capable de faire ça. Et nous, on s'appuie sur une technologie qui s'appelle FondationDB, pour le coup.
Et avec ça, on a Materia ETCD. Et en parlant de FondationDB, tu voulais aussi nous parler d'un petit podcast que tu as écouté assez intéressant qui raconte la naissance de FondationDB en tant qu'entreprise, en tant que technologie. Tu nous racontes un peu plus?
Ouais, du coup, c'est un nouveau podcast qui est sorti la semaine dernière, je crois, vendredi dernier. C'est fait par une entreprise qui s'appelle Antithesis, qui contient tous les fondateurs de la boîte Fondation, globalement, de l'ancienne boîte Fondation. Et en fait, il y avait assez peu d'informations, parce que c'était une boîte assez stealth quand elle est sortie, donc en 2009, elle a été rachetée 2015 par Apple. Et il y avait assez peu d'informations publiques sur cette boîte-là. Et ils ont fait des trucs de fou dans développer et créer une FondationDB. Ils ont fait une surcouche à un langage C++, ils ont fait un simulateur déterministe de panne. Enfin, c'est quand même une boîte qui est partie complètement orthogonale à la plupart des autres boîtes d'un point de vue technologique. Et ils ont profité de leur premier épisode de podcast, en fait, pour raconter l'histoire de comment ils ont lancé la boîte, des problèmes de financement qu'ils avaient liés à leur business model. C'est super intéressant. C'est un peu dommage qu'ils s'arrêtent assez rapidement ils racontent le début. Et on sent que dès qu'ils passent, dès qu'on se rapproche de l'acquisition d'Apple, en fait, ils sont sous NDA et du coup, ils disent plus rien et du coup, le podcast termine un peu rapidement, tu vois. Il y a une rupture assez abrupte. mais c'était cool. C'était, moi, j'ai eu la chance de les rencontrer à Washington, il y a quelques mois et du coup, j'avais déjà eu l'histoire, mais c'était une histoire en off. Et donc c'est chouette d'avoir cette vraie histoire enregistrée dans un podcast qui dure une quarantaine de minutes, qui est en anglais. Et très très chouette.
Donc un truc intéressant à écouter.
Un truc intéressant à écouter, ouais, exactement. T'apprends, c'est là que t'apprends en fait que les gens qui avaient écrit Fondation, bah, ils faisaient pas du système distribué avant, ils faisaient de la computer vision, donc de la vision. Ils avaient un simulateur de computer vision.
Ah ouais.
Enfin, que des bails comme ça.
Bon, bah, on va ajouter ça dans la liste des choses à écouter. Pierre, tu voulais aussi nous parler d'OpenDAL?
Ouais, alors OpenDAL, c'est un projet de la Fondation Apache, écrit en Rust. Ça fait partie de ces petits projets de la Fondation Apache. Il y en a de plus en plus en Rust. Je suis vraiment surpris par l'engouement qu'on a autour de ça. Et l'idée, c'est de pouvoir fournir une couche d'accès de données sur différents systèmes de stockage. Donc, par exemple, l'idée, c'est de se dire, bah, vous avez un, vous voulez écrire un fichier sur S3, bah, en fait, vous allez avoir utilisé la même interface de code et en fait, vous allez changer l'implémentation. Donc, par exemple, si vous voulez parler à un object storage, bah, vous avez directement les bons adapteurs que vous pouvez brancher directement. Les file system, pareil. Les key value, vous avez une liste impressionnante de tous les clés valeurs que vous avez. Pareil pour les DB, pareil pour les caches, etc. Ils supportent vraiment quand même beaucoup de technologies. Genre, par exemple, pour les clés valeurs. Alors, attends, j'étais dessus. Donc, ils supportent K-cache. Je sais même pas ce que c'est. Cloudflare KV, Dashmap. InMemory, ETCD, Fondation. Alors, Fondation, il faut savoir que dans la liste des gens qui poulent la crate Fondation-RS qu'on maintient, on est principal mainteneur et on est à 9 millions de téléchargements. Je crois que c'est 6 millions CE. Il y a un peu de build qui passe. Percy, Redis, RocksDB, Sled, Red, TidyB, Atomic Server. Donc, non, il y a. Petite lib sympa qui vous permet de faire une abstraction par-dessus, et c'est disponible dans différents langages. Je vois Rust, du coup, qui marche plutôt bien. Je vois C, je vois Go, Java, Node.js, Python. Et il y a plein de to-do pour ceux qui veulent faire des bindings, Lua, OCaml. Si des gens veulent contribuer à du projet, ça peut être plutôt pas mal. Okay. J'ai pas testé, je précise, j'ai pas testé, c'est juste que je vois les stats de téléchargement de la lib qu'on maintient à Clever exploser à chaque fois, tous les jours, ouvrés, parce qu'il y a plein de PR sur le projet. Donc je sais qu'il y a de l'activité.
Bah, ça peut valoir le coup qu'on jette un coup d'œil sur ce truc-là, hein. Ça se trouve, il y a des trucs pour nous dedans.
Ouais. Ouais, man. Bon, bah, nickel, merci.
Bon, alors... Vu qu'on parle de package qui se télécharge, un grand classique maintenant.
Pas mal la transition, je veux
dire. On parle dans presque chaque deux épisodes, on a un nouveau attaque de la supply chain, souvent en Node.js, il faut bien le dire. Sauf que cette fois, ça peut péter le plafond. Parce que en utilisant de l'ingénierie sociale et un domaine très semblable au domaine officiel de Node, ils ont réussi à récupérer les credentials de registre NPM de 8 des projets les plus populaires de l'écosystème Node. Choses comme la petite bibliothèque IS que beaucoup de monde utilise pour la gestion de types de variables, à des bibliothèques Prettier et ESLint. Donc des bibliothèques qui sont de base dans plein de projets. Et ils sont utilisant ces credentials, ils sont publiés des versions verrouillées de différents paquets. Ça a duré 24 heures, 48 heures, quelques heures avant que les mainteneurs de paquets se rendent compte qu'il y avait un nouveau artefact qui avait été publié, qui n'avait pas de lien avec aucun commit GitHub. Et ils ont commencé à voir, et l'attaque s'est faite en deux vagues. La première attaque, celui qui a affecté ESLint et Prettier, incluait une DLL Windows qui s'exécutait et qui, basiquement, donnait le contrôle de ton ordinateur Windows à quelqu'un de l'extérieur. Mais le truc s'exécutait, se mettait bien dans la mémoire, bien caché, difficile à trouver. Par contre, la deuxième attaque, c'était plus effrayante parce qu'ils se sont dit, bon, en fait, il n'y a peut-être pas tant de développeurs qui utilisent Windows, ça c'est mon interprétation. La deuxième attaque sur la bibliothèque IS, là, ils ont utilisé Pure.js natif, multiplateforme, Linux, Windows, Mac, et ils ouvrent un petit serveur et ils laissent ton ordinateur en accès libre à quelqu'un d'extérieur. Et donc, ce serveur-là écoute les commandes, il les exécute, il prend la sortie de ce qu'il a exécuté et il la renvoie comme réponse. Et il ne se contente pas de verrouiller la librairie pour s'assurer, Il se propage dans les autres librairies de projets, dans les index.js. Donc, la seule façon sûre de te débarrasser, c'est nuquer, détruire complètement les projets. Parce que sinon, il va laisser des restes un peu partout.
L'enfer.
Super. T'es ravi.
Tout ça, ça peut arriver avec un simple NPM update et avec une dépendance transitive d'une de tes dépendances. Parce que Slint Prettier, ça fait partie des tools de plein de projets pour s'assurer que les formatages des codes soient pareils dans toutes les équipes. Donc, ce n'est pas une bibliothèque, une dépendance de, c'est une dev dependency qui est de facto dans énormément de projets et énormément de projets open source. Il suffit que tu aies mis à jour le projet ou tu aies fait un clone de projet au mauvais moment et que les dépendances soit pas fixé au dernier digit de Semvert, tu te récupères la bibliothèque verrouillée sans te rendre compte de rien.
Ou même en CI, tu sais, on a des tools maintenant, c'est tu sais, qui viennent faire l'upgrade des dépendances et du coup, tu es obligé de build un moment, tu vois.
Et donc là, ça fait pas mal d'effets, non seulement pour les bibliothèques, pour comment c'était relativement facile de faire une attaque de phishing massive. Et parmi les maintainers, il va y avoir toujours quelqu'un qui s'est fait avoir par une attaque qui était vraiment très bien faite. Mais ensuite, pour cette idée-là, au moment où tu as des CI/CD, tu as des dépendances qui ne sont pas parfaitement verrouillées, bah, tu peux te faire avoir sans te rendre compte dans ce type d'attaque. Mmh. Donc, ça rappelle que le sujet de l'empoisonnement de la supply chain, ça reste un sujet extrêmement complexe, spécialement dans la Galaxy Note, mais pas que. Je vois bien que le sujet s'est propagé aussi dans d'autres galaxies.
Mais Node est quand même très souvent ciblé par ce truc-là, quoi.
Bah, Node est souvent ciblé parce que déjà, historiquement, c'était beaucoup plus simple que maintenant. Avant, il y a eu pendant un certain temps, même des périodes de mois complets dans lesquelles, avec un compte dans les registres NPM, tu pouvais publier à peu près n'importe quel artefact qui ne t'appartenait pas si tu te débrouillais bien. Historiquement, c'était toujours les privilégiés.
Et il y a eu une faille pendant 7 ans qui a mené à un des meilleurs blog posts ever de Node. C'est alors, on a trouvé la faille. Ça fait 7 ans qu'on est ouvert et que tu peux publier n'importe quoi en fait dans la base de données CouchDB. Et voilà. Mais on pense que ça n'a pas été exploité parce que la communauté Node, c'est que des cœurs chatons. Et tu sais, tu lis le blog post, t'es là, genre.
Et c'est le...
vous êtes sérieux là?
Oh
non, vraiment, je pense que personne ne l'a fait parce que vraiment, on est une communauté, on est que des cœurs chatons.
Elle est particulièrement embêtante aussi parce que pour les phishing, vu qu'ils n'ont pas fait les bonnes étapes pour protéger leur domaine email, bah, les mails semblaient arriver directement des registres NPM.
Ah ouais.
Donc, ça a fait directement descendre le niveau de paranoïa des maintainers. Donc, effectivement, quelque part, Node n'avait pas fait tout ce qu'il aurait dû faire pour empêcher ces failles-là. Mais n'empêche que ça reste quand même assez effrayant comme situation. Tiens, en parlant de failles, il y a une autre qui a été montrée sur un autre logiciel, cette fois complètement différent, mais utilisé dans plein d'entreprises, notre bon vieux SharePoint. A priori, ouais. Il y a eu une grosse faille.
Là, il y a eu une grosse faille qui, globalement, si le serveur était connecté à Internet, permettait de faire de la remote code exécution, donc de prendre la maîtrise du serveur qui est en dessous. Donc, t'es route sur le serveur, tu fais ce que tu veux, tu vas te coller dans la base de registre et tu fais ta vie. Donc voilà, comme d'habitude, nos amis de chez Microsoft avec des failles bien sévères. Et là, la faille SharePoint, en fait, ce qui est intéressant dans cette faille SharePoint, c'est plusieurs choses. Microsoft a mis 60 jours à corriger la faille, déjà c'est énorme. Ils corrigent la faille dans leurs updates régulières du 9 juillet. Et donc, ils corrigent la faille. Sauf qu'en fait, leur update n'était pas complète. Sauf que comme on avait dit la faille est corrigée, il y a deux chercheurs qui en ont parlé dans une conférence à Berlin et qui ont vu le truc. Sauf que ça a logé le truc, et là tout le monde s'est rendu compte qu'en fait tu filais globalement le correctif et la faille à Gemini en IA, et le truc te disait, bah non, en fait le truc n'est pas bouché, si tu passes par là, ça passe. Et donc, blanc, la faille elle était répétée. Et le truc surtout, c'est qu'en fait cette faille a été massivement exploitée. Et tu dis, mais attends, elle a été massivement exploitée 24 heures avant la release du correctif. Et en fait, c'est le temps où, quand t'es dans un programme Microsoft de correction des patchs, t'as 24 heures avant les failles. Ce qui veut dire qu'en clair, c'est un des membres du programme qui a très probablement commencé à utiliser le truc. Et là, tu commences à regarder qui y a dans le programme et tu te rends compte que c'est pas la première fois que ça leur arrive. Et notamment, t'as des boîtes chinoises qui font à la fois partie du programme de recherche de failles du gouvernement chinois et du programme de sécurité de Microsoft qui sont ensemble, mais bizarrement, 24 heures avant, et en partant de Chine, t'as des exploits massifs du bordel. Et là, c'est vrai que tu fais genre, vous gérez votre dossier comment chez Microsoft, hein, franchement, entre le fait que vous êtes même pas foutu de demander à Claude si votre faille a été bien bouchée, et le fait que vous filez les trucs à des mecs qui sont, c'est écrit dessus, les mecs qui cherchent les failles contre vous, je sais pas quoi vous proposer, quoi. Donc voilà, encore une fois, la sécurité, c'est un process, c'est pas juste de la technique, et là, clairement, c'est un problème de process au plus haut niveau d'une des plus grosses boîtes du monde, quoi.
Wow.
Ah oui, mais je rappelle, ce sont les meilleurs, c'est pour ça qu'on doit leur confier les données de santé des Français. Parce qu'ils n'ont jamais aucun problème ni de process, ni de technologie chez Microsoft. Je rappelle, et c'est très important, et le Conseil d'État l'a dit, c'est important. On sent que ça commence à me gonfler de faire de Conseil d'État pour de mauvaises raisons, ou pas du tout?
Non,
à peine.
Pas du tout. Mais on peut comprendre que si ça commençait à te gonfler, oui. Ah non, mais c'est... C'était une belle faille, celle-là, et surtout, c'était une belle procédure de résolution. Et Pierre, tu nous avais posté aussi un papier académique sur la extensibilité dans des bases de données modernes.
Oui, bah je vais aller assez vite. C'est un papier académique qui est sorti cette année sur. Donc c'est, il a été copublié par Andy Pavlov. Pavlov. Bref, le mec qui fait le CMU, qui est un des profs, le prof de base de données aux US, qui est assez actif dans la communauté. Tous ses cours sont en vidéo sur YouTube et ils sont géniaux. Donc, si vous intéressez sur les bases de données, il y a tous les cours de cette université-là sont gratuitement accessibles en ligne. Vous tapez CMU Database sur votre moteur de recherche et vous trouverez direct. Et moi, j'ai appris plein de choses avec ces vidéos-là. Et il publie de temps en temps des papiers. Donc là, il fait un état de l'art des extensions des bases de données. Mm-hmm. Donc les extensions de PostgreSQL, de DuckDB, de Redis, etc. Et donc en fait, le papier montre que sur les 441 extensions PG, il y en a 17% qui sont incompatibles entre elles. T'en as 35% qui ont des gros hacks pour pouvoir gérer les différentes versions de PG. Okay. Genre, tu vois, des if-def oui. Un peu à l'arrache pour pouvoir inclure du code sur la bonne version et compagnie. Et t'en as 17% qui copie-colle des fonctions de PG parce qu'ils ont besoin d'un truc et la fonction est privée, donc du coup, elle est inaccessible. Et bref, le papier est assez rigolo, ça peint un peu un tableau de l'état de la communauté quand tu développes des extensions PG, où en fait c'est un peu le western. Et globalement, tu peux un peu faire ce que tu veux, et du coup c'est pas évident, et c'est loin d'être trivial de faire ce genre de truc assez proprement. Et le papier termine en disant que PG est le plus permissif et donc le plus dangereux, tu vois. Genre, tu peux littéralement tout débrancher dans PG. Et du coup, ça rend les extensions, tu peux tout faire. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, le papier est assez chouette et il est assez facile à lire pour le coup. C'est comme c'est des données publiques et c'est assez facile de comprendre les enjeux du papier pour le coup.
Nickel, on ajoute les liens à notre liste de lecture. Et quelqu'un m'avait poussé un petit outil très sympa pour faire des transferts de fichiers via WireGuard. C'était l'un de vous ou c'était peut-être Thomas qui est parti?
C'est pas moi.
Ça vous
c'est moi. Oh. C'est moi. J'avais trouvé ça trop drôle. Ça permettait de balancer des fichiers en utilisant du WireGuard entre deux machines. Une sorte de AirPlay cross-réseau de l'espace. J'ai trouvé ça ultra fucking drôle comme truc. Je sais pas si c'est utilisable en cas réel. Il faut que je l'installe et que je joue avec l'un d'entre vous dessus. Mais j'ai trouvé que le truc était franchement drôle comme façon de gérer les choses.
Ah bah si voilà. Ça marche, c'est incroyable quoi.
Wouch, ça s'appelle, même rien que le nom est trop bien.
Wouch.
Moi ça m'a kiffé, voilà.
Ça peut être très très, très sympathique, surtout dans des VPN à base de WireGuard pour transférer des données entre collègues.
En fait, tu fais ça en c'est un peu similaire à Magic Wormhole en fait. Mais c'est hyper drôle. Enfin, moi je trouve que c'est d'un computer à un autre computer et c'est vraiment voilà. Et donc en fait, tu te connectes à un serveur qui fait juste l'interconnexion, tu as deux clés. Et en fait, tu fais un Woot SSH et tu te retrouves avec des choses et enfin c'est vraiment génial comme truc pour s'envoyer des fichiers au travers d'Internet de façon complètement sécurisée, y compris des très gros fichiers. Le concept est vraiment génial. Moi, ça m'a kiffé.
Y compris des très gros fichiers, type les cas pour lesquels certaines personnes utilisent WeTransfer ou d'autres.
Ouais, puis en plus tu peux même faire du rsync ou dessus, tu vois. Donc c'est assez génial. En fait, t'établis juste une connexion sécurisée entre deux machines pour s'envoyer des trucs.
Ok. Ah, ils utilisent l'implémentation Go de WireGuard. Ils n'utilisent pas l'implémentation du kernel. Ils utilisent leur propre implémentation Go.
Non, du coup c'est un petit Go. C'est un petit binaire Go qui va tout faire tout seul, tu vois. Okay. Voilà. C'est par ailleurs pour extraire des données d'un système d'information pseudo sécurisé et sortir de la donnée, c'est génial. Enfin, c'est un outil de pompage monstrueux de données sur les internets, si on veut mon humble avis. Hein. C'est le truc est pour moi un énorme danger. Hein. Mais je trouve que la techno est hyper intéressante, donc je vous l'ai mis et je trouve ça drôle.
Ok. Donc, il ouvre une connexion peer-to-peer avec WireGuard. Waouh! Ok.
Oh, ça marche même sur OpenBSD et FreeBSD. Là, je suis sur WireGuard Go. Je ne savais même pas que ça marchait.
Ah non, mais là, il faut le tester. Ça peut être très, très sympathique. Bon, bah, parfait. Je pense qu'avec
ça. Mal.
On a. Sauf si vous avez une autre news rapide à ajouter. On peut laisser ici cet épisode d'été, ça fera une petite heure. Et Quentin, tu nous proposes quelque chose comme
musique. De musique. Mettez à vous pendant que je vous en parle. Donc, j'ai stické là-dessus toute la semaine. Des fois, je stique sur des conneries. Donc le groupe s'appelle Calamambert au lait cru. C'est la chanson s'appelle L'amour. Ça a une vraie vibe de fin de rave party où tu croises la nana dans la queue du bar pour aller boire ton maté qui te dit mais tu vois il y a une étincelle, c'est le premier acte d'amour, mais c'était dingue tu vois, et donc où tu sens qu'elle est pas à jeun tu vois. et donc le truc m'a fait kiffer et en fait je viens de me rendre compte en vous le sortant et en lisant les crédits du truc que dans les crédits on tombe sur Manfred Touron, et Manfred Touron en fait c'est un vieux pote qu'on appelle Moule dans le milieu, qui est un des plus gros contributeurs open source du marché, qui est un des cofondateurs de Scalewave. C'est lui qui a fait les pimousses ARM de Scalewave à la grande époque. C'est lui qui a fait Bertie Pointec, le système de voilà. Donc je viens de lui envoyer un texto en disant genre what the fuck gros, parce que voilà, aujourd'hui il fait énormément de Web3, il fait des contracteurs, et donc en fait j'ai stické toute la semaine sur la musique d'un pote. je sais pas ce qu'il vient foutre dans le dossier, et voilà, et ce qui me permet de voilà, et ce qui me permet de dire que un de ces quatre, il faut absolument qu'on invite Manfred dans Massy, parce que c'est vraiment un mec absolument génial et qu'il faut connaître à un moment. Donc voilà. Mais voilà. Donc voilà, c'était Camembert au l'écrou, l'amour. ma recommandation du jour. Ma recommandation du jour. Je vous ai mis le lien via YouTube. Parfait. Et c'est parti. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Thomas qui est parti. Et à très bientôt.
À au très revoir. Bientôt. Bonne journée.
Merci à tous. Bisous.
Une étincelle. Et genre un flash, tu vois. L'amour.